C'était un matin d'octobre, froid, brumeux. En fait, comme on écrivait à l'époque sur les documents officiels, on était le premier jour avant les Ides d'octobre, 22e du règne du roi Philippe le IV. Autrement dit, on était le vendredi 13 octobre, 1307, la 22e année du règne de Philippe IV le Bel. Imaginez l'humidité pénétrer les vêtements des chevaliers en armes, escortant le personnage le plus important du royaume, après le roi bien sûr. Ils vont frapper lourdement et sans ménagement à l'énorme porte du temple à Paris où réside le grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, qui ne se doute de rien. Les chevaliers pénètrent dans la grande salle et Guillaume de Nogaret, le personnage important, conseiller principal du roi Philippe le Bel, tend au grand maître un parchemin. Il lui est signifié que par ordre du roi, lui, ainsi que tous les templiers, sont en état d'arrestation. Au même moment, imaginez quand même qu'on est à une époque où on n'a pas de téléphone mobile ni de montre, sont arrêtés tous les templiers de France et de Navarre. Ni Jacques de Molay, ni aucun autre templier à de très rares exceptions près, ne résiste, ce qui pourrait paraître pour nous tout à fait inconcevable, peut-être parce qu'ils croyaient certainement en leur bon droit. C'est le début de la fin d'un ordre religieux qui aura duré près de 200 ans. Pour les templiers, va débuter une nouvelle ère, terrible, de torture, de vexation, de mise en accusation. Il faudra 5 ans pour que cesse officiellement l'ordre du Temple. Alors, on a entendu beaucoup de sottises, on a lu beaucoup de sottises, on a vu beaucoup de fantasmes qui se sont également accumulés depuis la fin de l'ordre qui a alimenté un mythe, on va dire pseudo-scientifique. Est-ce qu'il y avait un trésor caché? Est-ce qu'ils avaient un secret spécial? Un ou plusieurs d'ailleurs, entre autres. On va revenir sur toute cette extraordinaire dans le sens littéral, hein, au-delà de l'ordinaire, cette extraordinaire aventure, celle de chevaliers ayant fait vœu de défendre le tombeau du Christ, le premier exemple quand même d'une création originale de la chrétienté médiévale occidentale, un ordre religieux-militaire. Alors aujourd'hui, sur Herodote.net, les Templiers.
Herodote.net, Richard Fremder.
Le vrai mythe de l'ordre du Temple, avouons-le, hein, on va pas se leurrer, c'est surtout l'idée, le fantasme de sa survivance secrète, sa pseudo-transformation au XVIIIe siècle, en franc-maçonnerie entre autres, puis en dérive de toutes sortes. Alors bien sûr, il y a le procès qui découle de l'entrée en matière que je vous ai présentée tout à l'heure. Et pourtant, il ne faut surtout pas imaginer qu'il est la suite logique de toute l'histoire des Templiers. Alors, maintenant, vous en avez l'habitude, je dis toujours que chaque histoire doit s'inscrire dans son contexte. Et bien, c'est justement ça qu'on va voir ensemble. On va démarrer par le contexte, très rapidement, le contexte de la création de l'ordre. On va d'abord faire un premier retour en arrière, un premier voyage temporel. Nous sommes en 1095, près de 1000 ans maintenant d'aujourd'hui, au moment où le pape Urbain II, au concile de Clermont, va lancer son appel à la croisade. Déjà, deux choses importantes à savoir, on ne dit pas croisade à l'époque, mais on écrit et on dit pèlerinage armé outre-mer. L'autre chose, la raison en fait principale de la croisade, c'est en fait réellement de porter la guerre à l'extérieur, selon le vieux principe de Charlemagne qui était paix à l'intérieur, guerre à l'extérieur. Il faut quand même savoir que dans le milieu de l'an 1000, les chevaliers francs s'entretuaient, ils pillaient les campagnes, ils s'organisaient en bandes, bref, ils désorganisaient complètement le système qui avait été mis en place. Alors déjà, pour commencer, on avait inventé le jour du Seigneur, le dimanche, pour l'interdiction du combat. On avait ensuite rajouté le samedi, 2 jours donc, pour garder des journées sans combat, toujours. Puis on a inventé les tournois, pour essayer de canaliser cette énergie, canaliser cette violence. Eh bien, il faut désormais exporter la violence d'une société qui est devenue, si vous voulez, oisive. Ainsi donc, du coup, la lutte contre les Turcs et la récupération du tombeau du Christ à Jérusalem, eh bien, va fournir une occasion rêvée à la chevalerie franque. Évidemment, Je vous parle de ça de notre point de vue, en tout cas du point de vue occidental, parce que les Byzantins, eux, vont le voir d'un autre œil, évidemment, et ils ont été totalement pris par surprise, ils ne s'y attendaient pas. Et c'est ainsi qu'en plein air, devant la cathédrale de Clermont, en Auvergne, eh bien le pape s'adresse au père du concile, ainsi qu'à une foule de laïcs spécialement convoqués pour l'occasion, principalement d'ailleurs des membres de l'aristocratie. Ça en dit long sur le degré d'improvisation, aujourd'hui on parlerait de formidables coups de communication. Il va condamner devant tout le monde les abus des clercs, trafic de reliques, nicolaïsme, le mariage des prêtres, entre autres, etc., etc. Mais également, comme je vous disais, il va tancer les laïcs, comme je disais tout à l'heure, luxure, comme le roi de France, Philippe Ier, qui l'accuse de bigamie, les chevaliers brigands, etc. Et le pape va leur offrir à tous le moyen de se racheter, il ouvre une voie vers le salut. C'est ça qui explique le formidable succès de cet appel qui a dépassé les espérances les plus optimistes. Et vous allez voir des milliers d'hommes de toutes les conditions qui vont se ruer sur les routes en demandant à chaque étape, et imaginez un peu, c'est ici Jérusalem? Ils ont évidemment une notion de la géographie qui est différente de la nôtre, ils ne savent rien. Tous vont converger vers Constantinople, la ville merveilleuse qui frappe encore toutes les imaginations. La victoire d'abord sur les Turcs à Dorylée en 1097 va permettre à l'empereur Alexis de reprendre une partie de l'Asie mineure et aux croisés de s'ouvrir le passage de la Syrie du Nord. Non sans mal par la suite, ils vont s'emparer d'Antioche en 1098 et un an plus tard, enfin, Jérusalem tombe à la suite d'un long siège. Alors là, la ville du Seigneur, considérée comme souillée par plusieurs siècles de présence infidèle, pardon, est impitoyablement purifiée par le sang. C'est effroyable, des tueries qui se perpétuent dans la ville à ce moment-là. Et du coup, pour nombre de croisés, le but est atteint. Ils ont réussi à chasser l'infidèle de la ville du Christ. Mission accomplie, ils peuvent rentrer. Or, pas tous. Il faut comprendre, et pour le sujet, c'est vital et fondamental, que beaucoup de ces chevaliers ont mis leur terre en gage pour se procurer l'argent nécessaire à l'accomplissement de leur voyage. Mis en gage dans les abbayes, notamment à Cluny. Le monde musulman au début est trop divisé et trop surpris pour réagir efficacement. Pourtant, deux places importantes restent à leurs mains, les villes de Tyr et Ascalon. Or, elles sont deux portes essentielles pour les pèlerins parce que sur la route la plus simple et la plus directe, bien avant les croisades, pour les pèlerinages. Et ces va-et-vient continuels attiraient naturellement des brigands et des escrocs de tout poil pour qui la détrousse des pèlerins va devenir un sport national et va rapidement s'établir l'hôpital de Jérusalem, bien plus ancien, voyez, que l'ordre du Temple, consacré d'abord à l'hébergement et aux soins des pèlerins. Il va ensuite y avoir une tâche de police pour la protection des pèlerins qui aura été confiée très tôt à certains jeunes chevaliers qui, à un moment donné, se sont affranchis en créant l'ordre du Temple. Et parmi ces chevaliers, un certain Hugues de Pens. Principal travail pour eux dès le départ, outre le combat bien sûr, c'est ce qu'on appellerait le lobbying aujourd'hui. C'est-à-dire convaincre Rome et l'Occident du bien fondé de leur action et surtout de la radicale nouveauté de leur projet, un ordre religieux et militaire. À Jérusalem, par contre, alors là, c'est pas du tout difficile de trouver des alliés, et pour cause, le contexte politique des années 1115-1120 va complètement dans le sens de cette démarche et de leur projet. Du coup, c'est pour ça que vous avez des sources qui ne correspondent pas toujours, où plusieurs dates sont données pour la naissance de l'ordre du Temple, 1118, 1119, 1120. Vous avez vu, j'ai démarré exprès l'émission par une date telle que les sources les écrivent. Vous comprenez facilement que l'exactitude n'est pas toujours évidente, tout dépend des indications dont on dispose. Alors généralement, on prend 1119 comme date de départ de création de l'ordre. Quand je disais que le contexte était propice, c'est que la Terre Sainte manquait d'hommes. En 1115 déjà, le roi de Jérusalem, Baudouin Ier, s'inquiète pour la sécurité du royaume. Il écrit que les chrétiens sont si peu nombreux qu'à peine ils auraient pu remplir une des rues principales. Imaginez également. Autre fait important. À Pâques, en 1119, un groupe de pèlerins est attaqué entre Jérusalem et le Jourdain. Puis en juin, c'est la bataille de la guerre Sanguinis, en Syrie du Nord. Une terrible défaite subie par les Francs. Ces deux événements sont suffisamment forts, frappent suffisamment les esprits, pour que du coup la création de cette fameuse chevalerie du temple puisse être bien accueillie. D'autant plus que vous avez certains nobles qui commencent à manifester des velléités d'indépendance face à l'autorité royale. Du coup, l'idée d'une chevalerie qui serait pas féodale, mais parrainée par l'Église, pourrait constituer, pour certains, un utile contrepoids. Ce que nous savons, c'est que ces chevaliers auraient pris l'initiative, plutôt insatisfaits de l'oisiveté qu'ils vivaient. Ils auraient désigné parmi eux un maître afin de combattre et protéger la terre, c'est-à-dire en fait les états latins. Ils s'adressent au roi et au patriarche, l'église, pour faire approuver leur projet et obtenir qu'ils reçoivent des chanoines du Saint-Sépulcre, donc l'hôpital, leur indépendance. Hugues de Payne s'est désigné grand maître de l'ordre, alors en fait à l'époque on dit maître de l'ordre, et va chercher l'approbation définitive du pape en 1127. C'est décisif, l'Occident est prêt cette fois à accueillir cette nouvelle expérience et à répondre à son appel. Alors entrons maintenant dans le vif du sujet très concrètement. L'expression employée pour parler des Templiers est toujours de dire, vous savez, moine-soldat. C'est vrai que c'est pas illégitime, Saint Bernard lui-même va associer les deux mots, mais en fait, je préférerais, il serait mieux et plus intéressant et plus réaliste de parler de religieux et non de moines. Vous allez comprendre, parce que ce qui est fascinant si on regarde bien en détail les textes et surtout les commentaires lors des différentes assemblées, c'est que l'Église, au cours de son histoire, a dû affiner sa réflexion sur la guerre et l'usage de la violence. Elle a forcément dû tenir compte des évolutions sociales qui marquent la société chrétienne de l'an 1000, et c'est ça qui est fantastique avec ce sujet, c'est qu'on peut toucher plein de sujets sociétaux. C'est passionnant de voir ces évolutions et les questionnements qui s'en suivent. Voyez plutôt, le christianisme primitif, par exemple, condamne, lui, directement, toute guerre, toute violence. Voilà, c'est fait. Mais très tôt, il va infléchir sa doctrine avec la question « Est-ce qu'on peut condamner celui qui se défend contre un agresseur ?» C'est de toutes ces réflexions, c'est de tout ce type de réflexion que va se servir l'ordre du Temple pour imposer son existence. Parce qu'avant d'être des combattants sur le terrain, ce sont des guerriers du droit. Apparaît alors la notion de guerre juste. Une guerre dont le but serait de maintenir un droit est permise, mais devrait être l'ultime recours. Au 7e siècle, la guerre vise à réparer l'injustice. Écoutez plutôt, juste est la guerre qui est faite après un avertissement pour récupérer des biens ou repousser des ennemis, c'est Isidore de Séville qui écrit. C'est cet argument-là qui permettra de justifier la croisade. Après, vous avez le passage de la guerre juste à la guerre sainte qui paraît évident et naturel. Et après l'idéologie, vient la pratique. On est à une époque où, on l'a vu, pour la croisade, il faut canaliser les forces en présence. La société évolue, il faut la gérer. Et c'est Adalbéron de Lens qui élabore le fameux schéma organisationnel que vous connaissez tous, qu'on connaît tous, selon lequel la maison de Dieu est triple tout en étant unie. Je vous le dis d'abord en latin, oratores, bellatores, laboratores. Les uns prient, d'autres combattent, d'autres travaillent, ça y est. La société est en place. Voilà le contexte global au moment de l'installation de l'ordre du Temple. Ce Temple qui va incarner en permanence et non plus par intermittence le mode de chevalerie du Christ, le moine et le soldat, dans une idéologie, celle de la croisade. Il est un religieux, mais pas un clerc. Il ne reçoit pas l'ordination, c'est important. Pourquoi ? Eh bien, vous l'avez compris, sinon, il ne pourrait pas se battre. Bref, en 1129, lors du Concile de Troyes, est définitivement consacré l'ordre. Et on a souvent écrit que Saint Bernard avait composé la règle du Temple. En fait, ça ne correspond pas tout à fait à la réalité. Il est l'un de ceux qui l'ont élaboré. Il a fait partie de l'ensemble des personnes qui l'ont élaboré. Si les clercs ont eu un peu de mal, on comprend, à accepter l'idée de chevalier religieux, en fait, les laïcs, eux, de leur côté, dès que ça a été validé par l'Église, vont accueillir cette nouvelle idée avec ferveur. En témoigne justement le mouvement de donation qui, initié par les Templiers et les pères du Concile de Troyes, va rapidement s'étendre à tout l'Occident. Tout à l'heure, je vous parlais de chevaliers donnant en gage des terres aux abbayes comme Cluny. Eh bien, une grande partie va se détourner vers le Temple. Si on met en corrélation les deux courbes, c'est le début de la fin pour Cluny, qui, avec en plus de la création des cisterciens, va voir ses revenus décroître brusquement. C'est le début d'une nouvelle ère. Les Templiers représentent la société dans laquelle ils se trouvent. Tout simplement, il faut bien comprendre qu'à l'époque, un ordre religieux, c'est un intermédiaire direct entre soi et Dieu. Les Templiers sont dans l'ordre du temps. Le premier patrimoine de ce temple se compose d'abord des richesses et des biens des premiers templiers, alors on le comprend, puisqu'ils prononcent le vœu de pauvreté individuelle. Je dis bien individuel, c'est important parce que, comme précision, parce que l'ordre, lui, n'a pas fait vœu de pauvreté. Ses membres, oui. Les autres donateurs de l'ordre, eh bien, appartiennent à des milieux de l'aristocratie. Et la réussite est telle que les comtes et les seigneurs des royaumes d'Espagne, Barcelone et Aragon en tête, eh bien, vont même vouloir les engager, ces templiers, dans la Reconquista, tout simplement en leur donnant en héritage leur royaume. Et en théorie, vous avez l'ordre du temple qui aurait pu être l'héritier du trône d'Aragon. Ça va jusque-là. On voit donc dans cette donation la preuve de l'extraordinaire prestige de la Terre Sainte et des ordres qui y ont pris naissance, et également la volonté du roi d'Aragon d'impliquer totalement ces ordres et en premier lieu le temple. Temple dont je vous rappelle quand même que le cœur de la fondation est la défense de la chrétienté, sous-entendu partout, même en Espagne, mais qui va trancher finalement par uniquement en Terre Sainte. Il va donc refuser l'héritage d'Aragon, mais obtenir en contrepartie des châteaux, des droits, des exemptions, et tenez-vous bien, un cinquième de tous les biens et terres conquis avec son concours. Alors qui sont-ils ? Au départ, dès le départ, ces fameux frères templiers, ces fameux religieux non ordonnés, qu'est-ce que c'est que cette invention ? Eh bien, le temple, dès le début, est composé de chevaliers, ça on l'a vu. Il leur faut donc, dans les commanderies, on reviendra sur le terme, un encadrement religieux. On fait donc appel à des prêtres extérieurs à l'ordre qui venaient assurer le service divin, la messe, etc. Mais il apparaît quand même que, comme ils avaient des devoirs religieux à l'intérieur de l'ordre, il aurait été plutôt opportun de se doter de prêtres en interne. Il y a donc ceux qui combattent, les chevaliers, qui restent des laïcs dans leur comportement. Il y a donc maintenant ceux qui prient, les prêtres, qui ne combattront pas, donc, comme je vous l'ai expliqué. Et enfin, ceux qui vont travailler à faire fructifier les terres et les avoirs de l'ordre pour doter les deux autres, à savoir les frères sergents. Vous avez donc maintenant, dans l'ordre, une mini, l'ordre avec un grand O, une mini-société qui s'est recréée à l'instar de ce qui se passe à l'extérieur. Et l'ordre est avant tout protégé par le Saint-Siège, qui est son créateur. Ce qui implique, vous le comprenez bien, une liberté quasi totale face aux seigneurs territoriaux, mais mieux encore, tous ceux qui, par leurs actes, remettraient en cause cette protection, encourraient l'excommunication. Voyez, voilà pourquoi, deux siècles plus tard, Philippe le Bel a dû marcher sur des œufs, si vous me pardonnez l'expression, pour l'affaire du Temple. Mieux même, une autre bulle papale en 1144 allait même accorder des indulgences aux donateurs du Temple. Alors avec les autres exemptions, on le voit, l'ordre du Temple, qui est le bras armé de la chrétienté en Orient, est extrêmement favorisé. Et de fait, il va se construire un formidable réseau, un réseau sur trois niveaux, avec au centre le gouvernement de l'ordre, le quartier général, à Jérusalem bien sûr, la règle et les bulles pontificales d'ailleurs vont en interdire tout transfert. Alors quand la ville tombe aux mains de Saladin en 1187, il va s'installer à Saint-Jean-d'Acre. Il va y rester jusqu'en 1291 quand Acre tombe à son tour, puis se réfugier à Chypre. Attention, comprenez bien qu'à aucun moment il n'a été question de transfert du siège en Occident. À aucun moment il n'y a eu de retour massif des Templiers en Occident. Au contraire, ils sont restés à leur poste jusqu'au bout en Méditerranée orientale. Alors, correspondant à l'abbé d'un monastère bénédictin, le maître, le grand maître si vous voulez, mais on dit le maître, dirige le temple. Tous les frères du temple doivent obéir au maître, et le maître doit obéir à son couvent. Cherchez pas, c'est ni plus ni moins que la règle bénédictine d'un monastère. Ici, quand je dis couvent, ça doit être compris dans son sens traditionnel, à savoir l'ensemble des frères combattants de l'ordre. La règle insiste, vous l'avez entendu, sur la nécessité pour le maître de consulter les frères avant de prendre une décision. Il s'agit soit d'un groupe restreint, aux plus sages d'entre eux, les prud'hommes, ça donnera les prud'hommes plus tard, soit de ceux qui se réunissent en chapitre général. Ça, c'est une notion typiquement médiévale, l'auxilium et concilium, l'aide et le conseil, que les monarques eux-mêmes appliquent de leur côté, ce qui donnera bien plus tard par la suite le conseil des ministres. Auxilium et concilium. Deuxième niveau, les provinces. Le maître du temple, avec l'accord du chapitre, on l'a vu, va désigner le commandeur de la terre de Tripoli et d'Antioche, celui de France et d'Angleterre, de Poitou, d'Aragon, de Portugal, de Pouille, de Hongrie. C'est d'ailleurs dans l'article 87, et pour nous, c'est une liste extrêmement précieuse, parce qu'elle donne sur l'histoire précoce de l'ordre une idée de ses structures territoriales. Bien sûr, au XIIe et XIIIe siècle, avec les conquêtes de Chypre et des États latins de Grèce, il y a eu des nouvelles provinces. Il s'en est même d'ailleurs fallu de peu qu'il se crée un véritable État templier à Chypre. Enfin, vient la commanderie, qui est la plus connue évidemment du grand public, puisque c'est l'organisation de base des Templiers. Attention, la commanderie, c'est pas une maison ou un domaine précis, hein, il faut bien penser que c'est une circonscription avec une maison mère. C'est donc un ensemble de maisons et de domaines. La maison chef-lieu possède une chapelle, et c'est dans cette chapelle que l'écrasante majorité des postulants prononcent leurs vœux pour entrer dans l'ordre. Alors je rentre pas dans les problèmes de vocabulaire, il faut être extrêmement prudent quand on veut les compter parce qu'on peut donner plusieurs sens à ces mots-là. Donc on le comprend, la fantastique toile du réseau templier a commencé avec les donations reçues. Mais avec leur organisation et la qualité des frères à disposition, ceux qui travaillent, ils ont réussi, à force de rachats, d'échanges, de ventes, etc., à rendre cohérents de très grands ensembles et à les faire fructifier. Pour être clair, les donations sont un peu partout, et à force de travail, d'échanges, comme je vous disais, etc., ils ont réussi à créer des ensembles cohérents, d'énormes propriétés. Et contrairement aux abbayes qui cherchaient, elles, le désert avant tout, eh bien les domaines templiers vont rechercher, eux, les voies de communication, les carrefours capables d'amener des pèlerins, des croisés, des marchands et surtout des chevaux, des armes et des vivres à destination des ports. C'est d'ailleurs pas un hasard. Tout à l'heure, quand je vous donnais la liste, je vous ai dit dans les provinces que se trouvait la Hongrie, qui à l'époque comprend la Croatie. Eh bien tout simplement parce que les pèlerins et les croisés, qui ne voulaient pas prendre le bateau, passaient par la terre pour y gagner Constantinople et passer par là. Le temple, c'est donc un réseau extrêmement dense, une organisation relativement souple, dans le but de réaliser ses objectifs, la mobilisation rapide des hommes et des ressources pour le secours à la Terre Sainte. Après le réseau, on va maintenant entrer dans la maison du Templier, je devrais dire les maisons, parce qu'elles sont de plusieurs types. Je vais passer assez rapidement. Vous avez le couvent forteresse, plus souvent en frontière, bien sûr. Alors imaginez que ce sont des châteaux puissants autour desquels, d'ailleurs, des petits villages vont commencer à se créer et s'agréger. À l'équivalent, d'ailleurs, des forteresses seigneuriales, ce sont des seigneurs locaux. Vous y trouvez évidemment une chapelle, souvent austère d'ailleurs. Le couvent rural, simple maison forte, là, vous avez le militaire qui laisse place aux religieux et à l'économat en général. Même s'il y a des murs et des fossés, défensifs, c'est vrai, c'est juste pour se prémunir contre le brigandage local. Ils pourraient absolument pas soutenir un siège militaire, donc c'est de petits ensembles. Là encore, vous avez une chapelle qui indique le chef-lieu de la commanderie. C'est d'ailleurs souvent ce type de maison templière que les touristes visitent quand ils viennent, qui sont les plus répandues en France. Vous avez Coulommiers, par exemple, près de Paris. Enfin, moins répandu, le couvent urbain. Vous avez un exemple à Perpignan, d'ailleurs, souvent situé près, voire même contre la muraille, ou près de la porte de la ville. C'est une sorte de palais, avec une cour centrale et des tours d'angle, et bien sûr, toujours la chapelle. Comme tous les seigneurs, parce qu'ils sont des seigneurs, les Templiers avaient droit de justice sur leurs terres. Ça veut dire donc qu'il y avait également, et oui, des prisons dans les maisons templières. On va maintenant rentrer dans ces maisons pour voir un peu ce qui s'y passe. Alors, je ne parle pas de voyeurisme du tout, je parle plutôt de leur vie quotidienne. On est en plein Moyen-Âge, vous l'avez compris, et vous pouvez lire, voir ici et là que les Templiers mangeaient à deux dans la même écuelle. Oui, c'est vrai. Mais sachez que ça n'a absolument rien d'exceptionnel à l'époque, ça se faisait beaucoup. Bien sûr, dans ces maisons, il n'est pas question de rester oisif. Le frère templier doit s'occuper, même si son commandeur ne lui a pas assigné de tâches précises. Par exemple, prendre soin de ses montures, ses armes ou son équipement. N'oubliez pas que la règle du temple est basée sur celle d'un monastère, il en va de même pour les moines, hein, c'est exactement la même chose. Et la journée du templier est également rythmée par les récitations des heures et la célébration de la messe. Alors je me suis dit que c'était intéressant de revenir rapidement sur les horaires des messes, pour s'en souvenir, matine, minuit, prime, 6h, tierce, 9h, sexte, midi, nonne, 15h, vêpres, 17h, les complis au moment du coucher. La messe quotidienne, elle, est célébrée en général après prime, c'est-à-dire 6 heures. Vous voyez comment est rythmée leur journée. La patronne de l'ordre, c'est la Vierge, pour, ça c'est pour information générale. Elle se trouve toujours au cœur de leur spiritualité, et j'ajouterais également qu'elle est au cœur de la spiritualité cistercienne, comme par hasard. Ce qui est important également à savoir, c'est même très important, parce que là une question demeure, on verra pour ce qui va suivre. En tout cas, pour ce que l'on sait, il ne s'entraînait pas à l'intérieur de la commanderie. C'est très important pour ce qui va suivre. Parce que je n'ai pas parlé des guerriers, en tout cas pas beaucoup. Si l'ordre est profondément ancré dans la religion, je crois que j'en ai assez parlé, et dans son époque, ce qui n'est pas neutre, que dire des guerriers ? Parce qu'ici, on a affaire au must du chevalier, si vous me pardonnez l'expression. C'est quand même aussi l'occasion de revenir un petit peu sur le mode de guerre au Moyen-Âge. D'abord, quand on dit chevalier, on dit cheval. La différence entre les chevaliers, vous pouvez la faire par le nombre de chevaux auxquels ils ont droit. Ça n'a rien d'étonnant, on retrouve ça aujourd'hui un peu dans les voitures de fonction des dirigeants. En fait, plus la voiture est grosse, plus la personne est importante. Vous avez donc les chevaliers qui ont droit à 3 montures et les sergents qui n'ont droit à qu'un seul cheval. Voyez, le cheval, c'est l'indicateur des nuances, si on veut, entre les membres de l'ordre. On va se faire un petit rappel, après les heures de la messe, on va se faire un petit rappel de la triade de base des chevaux, si vous voulez. Vous avez le destrier, c'est le cheval du chevalier par excellence, le cheval de combat, que les écuyers tiennent à droite, à destre, destrier. Le palefroid également, c'est le cheval des dames et des clercs, mais aussi le cheval de voyage par excellence. Et enfin, le cheval de travail qui est le roncin. Tous les dignitaires de l'ordre ont droit à 4 bêtes. Rapidement, la technique de la guerre. Sachez que à cette époque, le chevalier, donc avec son cheval, la technique n'a pas réellement, je ne parle pas là des Templiers simplement, mais la technique médiévale du chevalier, c'est la furia française qu'on connaîtra plus tard. C'est un peu ça, c'est-à-dire on y va à fond, on lance son cavalier, il n'y a pas vraiment de tactique prévue, on envoie le chevalier en avant, et c'est pour ça qu'il vaut mieux une bataille frontale, parce que ça permet d'aller les uns contre les autres et vous ne lancez pas les chevaliers pour rien. Or, les Turcs, eux, ont une technique tout à fait différente et ont bien compris que les Francs y allaient un peu à l'audace et un peu au courage sans tactique précise. Eh bien, eux vont plutôt utiliser des hommes à pied avec des arcs et vont donc les chevaliers francs vont arriver en plaine à fond la caisse, si vous me permettez là aussi l'expression, vont se retrouver seuls et complètement perdus et criblés de flèches, des flèches des Turcs. Voilà la technique du combat, la technique de la guerre à l'époque. Or, les Templiers, c'est pas ça. Quid de ces magnifiques soldats qui sont loués de par le monde ? Si on prend d'abord les faits d'armes, en 10 ans et 4 participations à des combats, 4 défaites. Vous me direz, c'est pas fameux. Mais il faut avouer, et c'est pour ça que je vous ai expliqué ça juste avant, que c'est surtout dû à l'indiscipline du chevalier franc en général, alors que la marque des Templiers, elle, n'est pas encore assez nette dans ces batailles pour imposer une discipline qui est leur marque de fabrique et qui devrait être la base de toute action militaire. Je fais une parenthèse en passant, ce comportement indiscipliné, si vous voulez, de la chevalerie franque, va mettre un temps infini chez nous en France a changé, ce qui va valoir des convenus sévères, notamment contre les Anglais, même 2 siècles plus tard, à Crécy notamment. En fait, vu le nombre relativement peu important des Templiers, en regard des autres chevaliers dans les armées, ils sont maximum une centaine de Templiers par bataille, il est certain qu'il ne faut quand même pas s'attendre à ce qu'ils puissent remporter à eux seuls ces batailles. Et n'oublions pas également que leur fonction première, c'est la garde des lieux saints et la protection des pèlerins, qui, finalement, ne commencera à porter ses fruits que vers 1150, soit plus d'une génération quand même, après sa création. Si vous lisez les chroniques de l'époque, vous pourrez y trouver que bon nombre de chroniqueurs vont attribuer les échecs aux Templiers. C'est vrai que c'est toujours la faute des autres, mais ça éveille quand même, malgré tout, la curiosité. Tiens, l'ordre du Temple serait-il impopulaire ? Là encore, on va réserver la question pour la suite. Parce que les Templiers ne sont pas vraiment adaptés au combat de front. Je vous ai dit que leur raison d'être, c'était la protection à la fois des lieux saints et des pèlerins. Or, à partir du XIIIe siècle, le mot d'ordre est « défendre ce qui reste ». Et les états latins reculent, les défaites augmentent. Et comme toujours en pareil cas, pour défendre le peu qu'on est, on s'ancre sur des positions. Thank you. saviez, au Xe, XIIe siècle, en Europe, l'érection des modes castrales, ce qu'on appellera l'incastellamento, l'encastellement. On s'ancre dans des châteaux. Eh bien ici, on va construire des forteresses. Vous retrouverez la même chose en 14-18, hein. C'est les tranchées, c'est le même principe de base. Il n'empêche que les Templiers avaient ce qu'on appellerait aujourd'hui une culture de la guerre. Parce que s'il y a une critique qui leur a jamais été faite, et pour cause, c'est le manque de courage et l'incompétence. Leur qualité première, c'est la rapidité. Ils sont les premiers arrivés sur les lieux de combat, les premiers à attaquer et les derniers à se retirer. Vient ensuite, et je vous l'ai dit tout à l'heure, la discipline. Je cite rapidement une chronique. Ils vont au combat en ordre, sans faire de bruit, et ils attendent le commandement de leur maître pour agir, à la différence des chevaliers traditionnels qui foncent et adviennent que pourra. Seulement, une question se pose, et j'en ai parlé tout à l'heure. Je la reprends. Comment est-ce qu'ils ont acquis cette culture, étant donné que la règle interdit la pratique de l'entraînement, à la chasse, au tournoi, etc. Parce que je vous garantis que la charge de cavalerie lourde ne s'improvise pas comme ça, hein. Malheureusement, les textes ne nous le disent pas, et la question reste entière. Religieux, soldats, on vient de faire le tour du portrait type du Templier. Et je vous entends d'ici penser tout haut, et les banquiers de l'Occident, alors, ceux qui travaillent. Eh bien, au risque d'en décevoir certains, les Templiers, le Temple, n'a jamais été une banque, et les Templiers n'ont jamais été les banquiers de l'Occident. Bon, je vais un peu relativiser, c'est vrai qu'ils ont des activités financières, qui demandent des pratiques et des instruments bancaires, mais le Temple est avant tout, comme tous les établissements monastiques, si vous voulez, un abri, un refuge pour les personnes comme pour les biens. Rien n'est plus sûr qu'une maison consacrée à Dieu. Et la première fonction du temple est donc une fonction passive. C'est celle d'un coffre-fort, un lieu de dépôt. Vous me direz que nos banques contemporaines, c'est un peu leur fonction aussi d'être une banque de dépôt. Mais ils ne se limitent pas à cette fonction, c'est vrai. Ils ouvrent des comptes au nom de déposants. Les clients déposent et retirent de l'argent sur leur compte. Ils peuvent même effectuer des paiements à des tiers par simple lettre adressée au trésorier. Alors quelle différence avec une banque, me direz-vous ? Le prêt d'argent. Et pourtant, on le sait, ils vont le pratiquer. Mais à des doses homéopathiques, en se garantissant de trois manières. Des gages, des intérêts et des amendes. Si vous voulez, contre l'argent prêté, le bénéficiaire va remettre ses biens en gage, en totalité ou en partie. On l'a vu au début, hein, c'est une des raisons de l'extraordinaire essor du temple. Mais soyons clairs tout de suite, jamais un prince ne va confier au temple la gestion de l'ensemble des sommes d'argent qu'il perçoit de ses états. En Angleterre, une partie du trésor royal seulement est déposée au temple par Henri II, et vous avez la situation identique en France. Le trésor du roi, c'est vrai, est placé au temple de Paris, mais ce n'est qu'une partie seulement, et il va y rester pendant tout le XIIIe siècle. Et donc, le temple, contrairement à ce qu'on dit, ne contrôle pas du tout l'ensemble des finances royales. En fait, le temple ne sera jamais une banque comme les sociétés italiennes. Hein. Il n'en a ni l'infrastructure financière, ni même le savoir-faire. Et c'est Philippe le Bel qui a enlevé, en 1295, la gestion du trésor aux Templiers. Alors, est-ce que nous avons là le tournant ? Est-ce que 1295 marque le début de l'affaire du Temple ? Eh bien non. Eh bien non. Les raisons ne semblent pas du tout avoir de rapport entre elles. En fait, le roi, c'est vrai, a de gros besoins d'argent, ça on le sait, d'argent liquide, immédiat, pour financer ses entreprises militaires en Flandre, en Guyenne, etc. Les ressources de son domaine sont loin de lui suffire. Alors il a tout essayé, les prélèvements fiscaux possibles et imaginables, y compris les mutations monétaires et même les spoliations des Juifs, des Lombards, entre autres. Il a donc maintenant recours à l'emprunt. Et en 1295, il se tourne vers les banques italiennes, pas vers le temple. Ça implique que le temple ne peut pas, ou ne veut pas, ça on ne sait pas, lui prêter les sommes énormes qu'il demande. En fait, le commencement de la fin du temple, vient avec l'affaire de la fusion des ordres. On lit en effet un peu partout, à cette époque-là, que les maux de la Terre Sainte viennent de la rivalité des ordres. Et encore une fois, c'est toujours la faute des autres. La question s'est posée pour la première fois en 1274 au deuxième concile de Lyon. Le pape avait demandé des rapports écrits aux clercs et des avis aux laïcs. Mais si cette question est encore secondaire à cette époque-là, elle allait ouvrir la boîte de Pandore. Avec la chute de Saint Jean d'Acre en 1291, la question se repose forcément puisque les États latins d'Orient disparaissent. La raison d'être des Templiers est devenue obsolète. Le pape Nicolas IV relance donc le débat, assez justement, en fusionnant les Templiers et les Hospitaliers. Pour nous, au XXIe siècle, qui connaissons l'actualité des rigueurs budgétaires, c'est pas forcément une mauvaise idée en soi, ça a du sens. D'ailleurs, preuve que les temps ont changé, la plupart des conciles régionaux réunis à cette époque-là se prononcent pour l'union. Mais manque de chance pour le projet, Nicolas IV meurt l'année suivante et l'effervescence qu'il avait pu produire autour du sujet retombe rapidement. Et c'est en 1305, et voyez, on s'approche lentement, que le sujet est remis sur la table par le pape Clément V. Or, le maître Jacques de Molay refuse, lui, la fusion, avec des arguments assez peu convaincants, sauf un, qui semble faire mouche quand même, c'est le fait que l'union des deux va faire un ordre si puissant qu'il défendra et pourra même défendre ses droits contre n'importe qui. L'argument est de poids pour le roi d'Aragon, notamment parce que je vous rappelle que son territoire est truffé de châteaux opérationnels. Pour la France et l'Angleterre, pas de question à se poser, on est pour l'union, mais sous la tutelle du roi et non du pape. Voilà le premier achoppement, sous la tutelle du roi et non du pape. C'est le premier achoppement qui explique en partie ce qui va suivre. C'est en effet, pour moi, une des clés du procès intenté aux Templiers. On le voit, Jérusalem est désormais bien loin. Et en 1306, Clément V va envoyer une convocation aux deux maîtres de l'ordre des Hospitaliers et du Temple, les enjoignant de le rejoindre à Poitiers pour discuter de la croisade et de l'union des ordres. Manque de chance, le pape tombe malade et en arrivant à Marseille, les deux maîtres apprennent l'ajournement de l'entrevue. Je vous rappelle que Jacques de Molay n'a pas émigré, hein. Le siège est toujours à Chypre. Il ne vient pas non plus rendre des comptes comme on peut lire ici et là. Il vient juste répondre à une convocation du pape qui est la seule autorité à laquelle il doit complète obéissance. Et quand il arrive à Marseille, il se trouve confronté un problème qu'il ne soupçonnait pas du tout, qui n'était pas remonté jusqu'à lui. De graves accusations sont lancées contre le temple. Accusations qui portent sur des pratiques scandaleuses qui interviendraient lors de rituels d'admission dans l'ordre. Alors, il y a toujours eu des rumeurs, des accusations. Mais là, on est loin des critiques traditionnelles, orgueil, cupidité, etc. Là, on parle d'hérésie, de blasphème, d'idolâtrie, de sodomie. Autant de crimes absolus qui mériteraient la mort immédiate à cette époque-là lorsqu'il s'agit de laïcs. Alors imaginez quand il s'agit de religieux. Aujourd'hui, on connaît parfaitement l'origine, on sait qui a colporté ces rumeurs. Je ne vais pas entrer dans ces détails, il faudrait une émission spéciale sur cette affaire uniquement. D'ailleurs, pourquoi pas, vous nous direz ça sur Facebook si vous voulez. Mais Clément V a été mis au courant de ces rumeurs par Philippe le Bel en novembre de l'année précédente. Il faut savoir quand même que Guillaume de Nogaret, qui est l'homme qui gouverne la France au nom du roi, a rempli un dossier avec une grande méthode. Il a recruté des témoins à charge parmi d'anciens templiers qui ont quitté l'ordre ou en ont été chassés pour faute. Mais mieux, il a même réussi à faire entrer des taupes au sein de l'ordre du temple. Alors dès qu'il a été à Paris, Jacques de Molay a vu le roi et s'est ouvert à lui des accusations injustifiées, évidemment. Ce qu'on ne sait pas, c'est si l'attitude du roi l'a rassuré ou non. Du coup, à Poitiers, Jacques de Molay prend les devants et il demande au pape d'ouvrir rapidement une enquête qui pourrait laver l'honneur de l'ordre. Or, bien sûr, là, on comprend, vous le comprenez certainement, c'est pas sans risque, parce que ça va permettre un grand déballage et mettre au grand jour des pratiques et des comportements qui jusque-là étaient cachés au grand public. Même si la notion de grand public là est un peu anachronique, mais l'opinion est importante à ce moment-là. Et ce genre de déballage laisse des traces, même si finalement l'ordre en sort blanchi. On le voit avec certaines affaires aujourd'hui encore. Le pape écrit donc au roi de France qu'il va procéder à l'enquête. Mais en plus, il lui écrit qu'il va s'absenter pour raison médicale, un traitement lourd de plusieurs mois qui le tiendra éloigné un moment. C'est le moment rêvé. Philippe le Bel et ses conseillers ont tranché. Le délai annoncé par le pape est une aubaine. Violant le droit canon, ignorant même les prérogatives du pape, le roi décide d'agir pour le bien de l'Église, la chrétienté et la foi, tout ça en même temps. Dans une réunion tenue secrète, à Maubuisson, près de Pontoise, en région parisienne, le roi et ses conseillers mettent au point l'opération qui va conduire à l'arrestation de tous les Templiers de France. Ils vont même joindre à l'ordre d'arrestation un mémento pratique sur la façon de procéder, et tout ça est envoyé aux baillis et aux sénéchaux royaux qui doivent garder le secret jusqu'au jour J. Vous imaginez le risque, une indiscrétion, et non seulement le plan tombe à l'eau, mais en plus le pape en aurait vent, et le roi pourrait même être excommunié. Parce que le pape a été mis totalement à l'écart, à aucun moment il n'a cautionné l'opération. Or, on le sait, aujourd'hui, des Templiers ont eu vent de l'opération. Et pas seulement les taupes de Nogaret, bien sûr. Il est même probable que Jacques de Molay ait été au courant. On a retrouvé un document des archives d'Aragon qui indique qu'il a refusé de fuir. Donc s'il a eu des soupçons, il ne les a pas montrés. Il était sûr, visiblement, de son bon droit en demandant une enquête papale. Et fuir, en plus, ça aurait été reconnaître la culpabilité de l'ordre. Ainsi donc, le vendredi 13 octobre 1307, soit dit en passant, le vendredi 13, le fameux vendredi 13, viendrait certainement de là. Il est donc procédé aux arrestations dont j'ai parlé au début. Difficile d'en préciser le nombre exact, en tout cas, l'effet de surprise a été total. Et Philippe le Bel va écrire à tous les princes pour se justifier et leur demander d'agir d'eux-mêmes. Évidemment, quand ils reçoivent le courrier, l'arrestation est connue depuis longtemps, partout en Europe, et on peut dire que l'accueil a été plutôt sceptique, voire même plutôt hostile. Édouard II d'Angleterre n'accorde même lui, alors là, aucun crédit à ces accusations. Quant au pape, il est littéralement ulcéré. L'Église et son chef bafoués. Le pape écrit même « En cet acte souverain, chacun perçoit, non sans raison, un outrageant mépris envers nous et l'Église de Rome. » Oui, mais seulement voilà. Entre-temps, les aveux des Templiers tombent les uns après les autres, y compris les aveux du maître lui-même, y compris devant témoins, en public. Et ça, comprenez bien que Philippe le Bel ne va pas manquer d'en informer les sceptiques, et l'opinion, la fameuse opinion, se retourne peu à peu. Pour le pape, l'objectif est clair, il faut reprendre la main, coûte que coûte, bloquer la procédure expéditive, reprendre l'initiative. C'est de la politique. Aussitôt, il ordonne l'arrestation des Templiers dans la chrétienté et surtout la mise sous tutelle de l'Église des biens du Temple. Et là, même Édouard II va obéir. On n'est pas encore sous Henri VIII. Il va falloir 9 mois pour que l'ensemble des princes obéissent, mais c'est en traînant les pieds. À part en France, bien sûr. Alors, je ne vais pas revenir sur les détails du procès. Là encore, il faudrait une émission complète. Mais vous comprenez bien le bras de fer qui s'est instauré entre le roi de France, les Templiers et le pape. C'est très important. Sachez que, quelque part quand même, le roi de France a échoué. C'est vrai que l'ordre du Temple a été supprimé, mais il n'a pas été condamné. Du coup, conclure comme ça, ça invite à poser quelques questions, et notamment celles que je vous entends d'ici vous poser. Alors le temple, innocent ou coupable? Au préalable, il faut quand même situer un peu le procès, parce que c'est pas un procès criminel comme un autre. C'est un procès fabriqué, un procès politique, conduit selon une procédure d'exception, l'Inquisition. On n'est pas loin, si vous voulez mon avis, des procès staliniens qu'on connaîtra plus tard. Parce que cette affaire ne vise pas à faire connaître la vérité, mais à faire d'un innocent un coupable, comme écrit un templier anglais, que l'on soupçonne d'extrême objectivité, bien sûr. Si vous lisez les procès-verbaux de déposition, si vous entrez dans les détails, eh bien vous allez comprendre que finalement, ne sont conservés et ne sont transmis que seuls ceux qui ont avoué. Les autres ne sont pas jugés intéressants, parfois même certains qui n'avouent pas sont libérés dans d'autres pays. Vous voyez, la vérité un peu connu d'avance. Vous connaissez l'expression, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Il faut noter quand même que, malgré les tortures, et surtout en France d'ailleurs, et les pressions de toutes sortes, les aveux ne sont pas non plus uniformes. Et même, ceux qui ont reconnu ont quand même reconnu fort peu. Alors, chez vous, faites-vous une idée. L'autre question pourrait porter sur les raisons qui ont poussé Philippe le Bel à terrasser le temple. Parce que longtemps, on a pensé que c'est l'intérêt matériel qui seul avait été le mobile principal de l'action royale. Alors c'est vrai, de tout son règne, Philippe le Bel a cherché de l'argent. Il a utilisé, je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les moyens pour en obtenir. Alors pourquoi les Templiers ? Eh bien, les rumeurs et les accusations courant sur le temple, c'est vrai, ont offert au roi l'occasion de mettre la main, même si c'est provisoirement, ça se déciderait d'ailleurs au cours de l'affaire, sur les richesses pour renflouer les caisses. Mais en même temps, la saisie lui permettait de rationaliser, je devrais dire nationaliser, l'administration financière. L'objectif du roi, et ça c'est important, était de ne plus dépendre des étrangers. Entre guillemets, étrangers parce qu'indépendants du milieu du roi. Cette sorte de nationalisme me semble pour moi être un élément clé dans cette affaire. L'ordre en France n'est pas du tout un danger militaire et encore moins une menace économique, ailleurs non plus du reste. Le problème est d'ordre plutôt idéologique et politique. Pour simplifier, si vous voulez, je dirais que les temps ont changé. Autant l'ordre du temple était dans le vent au moment de sa création, autant là, il est has-been, il n'est plus du tout d'actualité. Non seulement dans le fond, il n'y a plus de croisade, mais également dans la forme. À la fin du XIIIe siècle, les souverains européens ont tous des litiges plus ou moins graves et importants avec la papauté, parce que tout simplement, tous cherchent à contrôler leur église. Et les ordres religieux militaires, avec leur structure extrêmement hiérarchisée, sont un instrument de la papauté. C'est un corps étranger dans le royaume, dans un royaume qui se veut de plus en plus centralisé et unifié. Imaginez, au XIe siècle, le roi de France régnait sur l'île de France. Au XIIIe, il règne sur toute la France et il entend bien administrer son royaume. Un peu comme la phrase qu'on connaît d'ailleurs, on se soumet ou on se démet, soit on contrôle, soit on supprime. Une occasion s'est donc présentée à Philippe le Bel, il en a profité, mais avec lui, des autres princes aussi, il ne faut pas croire. D'ailleurs, le roi ne perd pas de temps. Il a dû accepter de céder ses biens, les biens du temple à l'hôpital, et il va ouvrir immédiatement un autre front, lequel la réforme de l'ordre des hospitaliers, qui à ses yeux n'est pas meilleure que le temple. Vous voyez, les ordres militaires internationaux sont désormais des obstacles au développement des monarchies centralisées, c'est fini. Ils n'ont plus leur place dans les États modernes. Ce n'est plus l'époque. Les temps ont changé. Dernière raison, sorte de cerise sur le gâteau, si vous préférez. Une fois enclenchée, l'affaire du temple a été pour le roi un moyen de pression constant sur le pape Clément V. Pour terminer, je rappellerai quand même que c'est tourné vers Notre-Dame et les mains jointes dans la prière qu'est mort Jacques de Molay. Voilà, vous pouvez donc intervenir et nous interpeller, discuter sur notre page Facebook, podcast herodote.net. À très vite.